Ok. La halakha, il y a une grande discussion entre les décisionnaires et des siècles derniers et jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe si le talit tombe? Ou si on doit aller aux toilettes et qu'on veut enlever le talit, on enlève le talit, quand on le remet, est-ce qu'on fait la bracha, oui ou non? Alors, le Shulchan Aruch, il dit que oui. Dans les deux cas. Le Réma, Shulchan Aruch des Ashkenazim, dit que s'il est tombé, non, on ne fait pas la bracha. D'autres poskim, beaucoup de décisionnaires de l'époque même du Shulchan Aruch, même avant, disaient que non, quand on va aux toilettes, on ne doit pas faire la bracha, on le met sans bracha. À propos du talit, aujourd'hui, les poskim, on va dire, de notre génération, ou de la génération passée, Ben Yishraï dit qu'on ne fait pas la bracha, le Rav Benson et le Rav Alia aussi. Pour être filin, c'est la même question aussi. Quelqu'un qui enlève le filin pour aller aux toilettes. Là, nous voyons une discussion. Le Ben Yishraï et le Rav Benson disent qu'on ne refait pas la bracha. Le Rav Yosef dit qu'on refait la bracha. Dans tous les cas, on est dans le problème des brachot. C'est quoi le problème des brachot? Parce que si on fait la bracha, peut-être qu'on a fait la bracha en vain, ce qui est extrêmement grave, d'après la Torah. Le troisième du commandement interdit de faire une bracha en vain, c'est extrêmement grave. Et si on ne fait pas la bracha, peut-être qu'après la vérité, il fallait la faire. Et on ne la fait pas, et c'est dommage. Dans tous les cas, on a un klal. Ça fait que brachot est laquelle? Quand on a un doute à propos de bracha, on ne la fait pas.
Et le Shulchan Aruch, il l'a tranché dans le monde.
C'est vrai, mais on a un klal, on a une loi aussi dans la halakha qui dit qu'on peut faire, quand ça concerne un ça fait que brachot est laquelle, on peut aller même contre le Shulchan Aruch. Tellement cet interdit est grave, donc on va contre le Shulchan Aruch aussi. Il y a néanmoins une combine qui nous permet de sortir de ce problème de safek brachot, de doute à propos d'une bracha. Shulchan Aruch, celui qui dévoile cela quelque part, il écrit à propos de la boisson dans le repas. Est-ce qu'on fait une bracha sur une boisson dans un repas? La bracha, on ne fait pas. Que si on boit du vin dans le repas, c'est une boisson importante, on fait la bracha après Geffen dans le repas de pain, je parle d'un repas de pain, d'accord, de hamotzi. Et sur tous les autres liquides, sur lesquels, toutes les autres boissons sur lesquelles on fait chez Akol, on ne fait pas la bracha durant le repas. Néanmoins, Shulchan Aruch, comment il écrit ça? Il écrit comme ça. Il écrit, il y a trois avis. Il y a un avis qui dit qu'on ne fait pas la bracha sur la boisson, parce que c'est rendu cuite par le pain. Il y a un avis qui dit qu'on fait la bracha. Et il y a un avis qui dit qu'on fait la bracha sur chaque verre.
Même les
trois avis.
Même la liqueur.
Pardon?
Même la liqueur, une liqueur.
Une liqueur aussi, ouais, même chose. Même chose, ça se peut que c'est le verre en fin de repas, en tant que dessert peut-être sera différent, mais là aussi on ne sort pas du safek, on ne sort pas du doute. Donc, Shulchan Aruch dit, vu qu'il y a un doute, et qu'on a cette loi qui dit que chaque fois qu'il y a un doute de bracha, on ne la fait pas, on ne fait pas la bracha. Néanmoins, Shulchan Aruch donne un conseil, et c'est là où je veux arriver. Il recommande de boire un peu de boisson avant le repas, faire shakol, penser rendre quitte les boissons qu'on va manger durant le repas, comme ça il n'y a pas de problème. Mais quel est le problème qu'on aurait pu dire? C'est que, on va y arriver aussi, c'est un deuxième problème, c'est qu'on a une autre loi, qu'on n'a pas le droit de faire une bracha chez Natsricha. On n'a pas le droit de faire une bracha qui n'est pas nécessaire. D'accord? Je peux par exemple manger maintenant du riz, je fais mes onotes, après 5 minutes j'arrête, je fais boré nefashot, et après je recommence tout de suite, comme ça pour rien, je fais mes onotes et de nouveau boré nefashot. Tu as fait les brachot qui ne sont pas nécessaires. Tu aurais pu continuer à manger sans faire bracha achrona, sans faire bracha de fin et bracha de début. C'est quoi cette façon de faire des brachot comme ça au milieu? On fait le bracha quand il est nécessaire. Là, pourquoi tu fais shakol avant le repas? D'après l'avis qui dit que la boisson durant le repas est rendue quitte par le pain, tu n'as pas à faire la bracha avant le repas. C'est une bracha qui n'est pas nécessaire. Tu n'avais qu'à pas faire de brachot, pas boire la boisson avant le repas. Faire un motzi et tu bois maintenant ta boisson sans bracha dans le repas. Le fait de boire avant te fait faire une bracha qui n'est pas nécessaire. C'était pas nécessaire. Tu attendais 2 minutes après un motzi et tu bois ta boisson.
C'est à peu près le même cas que les personnes qui veulent faire pendant Shabbat, ils veulent faire des brachot avant.
Oui, alors Shabbat, exactement, ça ressemble à cela. De là, on apprend que pour sortir d'un doute de brachot, pourquoi le Shulchan Aruch nous conseille de faire shakol sur la boisson avant le repas? Pour sortir du problème de doute de brachot, est-ce que je peux boire maintenant une boisson dans le repas sans faire la bracha? Un avis qui dit que oui, un avis qui dit que non, j'ai un problème. Si je bois sans bracha, peut-être que je suis en train de boire sans bracha. Si je la bracha, peut-être que je suis en train de faire la bracha en vain, ce qui est extrêmement grave. Qu'est-ce que je fais? Je suis bien embêté. Me conseille le Shulchan Aruch de faire une bracha avant le repas. Ah, mais il y aura un problème que tu fais une bracha qui n'est pas nécessaire parce que tu aurais pu la faire dans le repas. De là, on apprend qu'on peut faire une bracha qui n'est pas nécessaire pour sortir d'un doute de brachot. Le suivi, c'est un peu compliqué. Je peux faire une bracha qui est avant le repas, qui n'est pas nécessaire parce que j'aurais pu ne pas la faire et quelque part boire, d'après un avis en tout cas, boire durant le repas sans faire la bracha. Je fais la bracha avant le repas, bien qu'elle n'est pas nécessaire, pour sortir d'un doute de brachot, est-ce que je peux boire durant le repas, oui ou non? On ne sait pas, je bois avant un peu, je pense quitte la boisson qu'il y aura durant le repas, et ça va très bien. Petit problème que tu as soulevé, il faut boire un tout petit peu. Parce que si on boit trop, on rentre dans un doute, est-ce qu'on doit faire la bracha, borel fachot, c'est-à-dire la bracha de fin de consommation de boisson avant le repas? C'est un problème, donc on boit un tout petit peu. Et je touche aussi ce que tu viens de rappeler aussi. Il est conseillé, non seulement à Shabbat, mais spécialement à Shabbat, de rendre quitte toutes sortes d'aliments qu'on est susceptible de manger durant le repas, à propos desquels il y a un doute si on doit faire la bracha à leur propos ou pas dans le repas. Hamotzi rend quitte quoi? Rend quitte ce que je mange avec du pain et l'essentiel du repas. Il y a des questions. Je prends des olives. Est-ce que des olives au milieu du repas, est-ce que ça se mange avec le pain? Pas forcément. Est-ce que c'est fait partie du repas essentiel? Pas forcément. Alors quand je la bracha boré priyat sur les olives au milieu du repas, pas forcément non plus. C'est pas clair. Flou. Une glace. En fin de repas, ça dépend des glaces. Les glaces qui sont faites avec des œufs, il n'y a pas de problème. Un sorbet. Discussion. Il y a des rabbinim qui disent qu'on fait le bracha sur un sorbet, d'accord, une bracha qui est à l'eau, d'accord, une glace à l'eau qui fait avec de l'eau gelée. Donc un sorbet, pas une glace où il y a du lait ou de la graisse ou des protéines telles que des œufs, mais rien que de l'eau qui était gelée. D'accord. Un avis dit que oui, on fait la bracha, un avis dit que non. Je prends des amandes au milieu du repas. Une carotte entière. Alors, ben, si on dit, si on coupe la carotte, c'est bien une salade. On ne fait pas la bracha dessus. Mais si tu la manges entière, un avis dit que oui, il faut faire la bracha. Un autre dit que non, c'est pas un dessert, c'est pas une chose, ça vient avec le repas. Il y a beaucoup d'aliments qu'on est susceptible de manger durant le repas, pour lesquels il y a un doute si on fait la bracha dessus, oui ou non. Quelle est la combine pour sortir du doute? On goûte avant le repas un peu de priyaetz, un peu de préadama, un peu de shéakol, comme ça j'ai couvert à peu près tout ce qui est couvrable, et comme ça, si même pendant le repas, je veux manger une chose, il y a un doute, des olives, des amandes, un sorbet, etc., j'ai pensé rendre quitte toutes ces nourritures-là avec la bracha que je fais avant le repas. Attention, très attention de ne pas manger en tout une quantité de kazaït. Kazaït, ce n'est pas beaucoup, c'est à peu près comme ça. Il y a un kazaït, c'est 27,7 millilitres, 28 millilitres. C'est combien? C'est un carré, un cube de 3,1 cm de large. C'est pas beaucoup. Ça, c'est kazaït. Quand on a mangé une nourriture dans ce volume-là, on parle de volume, on doit faire bracha achrona. Maintenant, c'est la vie du roche. La majorité des poskim disent que non, c'est deux tiers de ça. C'est beaucoup plus petit. La halakha, on ne fera pas bracha achrona, une bracha en fin de repas, tant qu'on n'a pas mangé un volume pareil, parce que la vie du roche qui ne dit pas comme ça, on ne veut pas faire une bracha, puis d'après le roche, une bracha en vin. Donc, il faut manger plus que cela, enfin, cette quantité au moins, 3,1, pour faire la bracha achrona, ou moins des deux tiers. Pas rentrer dans la partie 42 deux tiers et le 3,1 cm de large. Donc là, maintenant, avant le repas, si je mange, je dois faire attention de ne pas manger, de ne pas arriver en tout aux deux tiers de ce cube de 3,1 cm, c'est pas beaucoup, c'est comme un demi-doigt, d'accord? Déjà, tu rentres en... Donc, vous mangez, goûter un tout petit peu, il y en a qui mangent, et sympathiquement, etc., d'accord? Non, tu manges un tout petit peu de ça, tu rends quitte, pas plus, et tu penses rendre quitte aussi ce que tu vas manger durant le repas, tu penses aussi que c'est valable, bon, on a un peu glissé dans les lois des brachot, mais c'est important aussi. Il y a un avis qui dit qu'une bracha est valable que dans la même chambre, pas hors. Un avis qui dit que hors dessous, hors aussi. Il y a un doute. Donc il faut penser maintenant que la bracha est valable aussi pour hors de la chambre. Parce que Shabbat, ton repas de pain, qu'est-ce que tu fais? Tu manges un peu maintenant tes fruits avant le repas. Après, tu vas te laver les mains. D'habitude, le lavabo est dans une autre chambre, dans la cuisine ou proche des toilettes, d'accord. Tu vas te laver les mains là-bas, tu reviens, tu es sorti. Tout ce que la bracha que tu as fait, elle n'a plus aucun poids, vu qu'il y a un avis qui dit que la bracha n'est valable que dans la même chambre. Donc, il faut penser auparavant que la bracha sera valable pour tout l'appartement. Penser que ça va valable pour tout ce que je vais manger durant le repas, qui n'est pas rendu quitte par le pain, et manger en tout moins de, si possible, 2/3 d'un cube de 3,1 cm. Pourquoi on fait cela? De nouveau, pour sortir du problème de Safek Brachot. Vu que ces éléments, il y a un doute à leur propos, si on fait la bracha durant le repas ou pas, on peut faire une bracha nasricha, une bracha qui n'est pas nécessaire, pour sortir de ce doute-là et faire la bracha avant le repas. On revient au talit. Il y a un doute si le talit est tombé ou si on va rentrer aux toilettes, si on doit faire la bracha quand on le remet ou non. Quelle est la combine à faire? On peut faire une bracha qui n'est pas nécessaire pour sortir d'un Safek Brachot, pour sortir d'un doute de Brachot. Qu'est-ce qu'on va faire? Quand on met la première fois le talit, on fait la bracha, chacun de nous, on était à Tef Betzitzit, on pense, la bracha que je fais est valable jusqu'à ce que j'enlève le talit. Comme ça, quand je l'enlève pour aller aux toilettes, quand je le reviens, il n'y a aucun doute que je dois refaire la bracha. Tu me diras, mais attention, mon cher ami, tu fais peut-être une bracha qui n'est pas nécessaire, parce que d'après un avis, la bracha est valable aussi après les toilettes. Je dis, oui, mais un avis qui dit qu'elle n'est pas valable après les toilettes. Pour sortir d'un doute de bracha, si on doit le faire ou pas, je peux faire une bracha qui n'est pas nécessaire. La bracha que je ferai après en sortant des toilettes, alors, c'est vrai qu'elle n'aurait pas été nécessaire, mais elle devient nécessaire parce que j'ai pensé avant que la bracha, la première que j'ai faite, sera valable jusqu'aux toilettes et pas plus loin. Et dans ce cas, ça va. Par exemple, quelqu'un qui, à mon âge, on commence à vieillir un peu, il y a des gens qui vont aux toilettes pour un oui, pour un non. Pour un non, d'accord, ils ont la comment on appelle ça, la vessie. La vessie, il va... Elle est déjà moins jeune, d'accord? Alors, par exemple, il va à la prière le matin, il a bu son café, il va à la prière le matin, Shabbat, en France, 3h30, d'accord? Longueur comme la galoute. Il a bu son café avant d'aller à la prière, ok, il fait shachrit, il doit aller aux toilettes. Il enlève son talit, avant qu'il y ait la Torah. Il revient, il y a un doute, est-ce que je fais la bracha, oui ou non? Il la met sans bracha. Des fois, même 2-3 fois durant la matinée, ça dépend à quel point sa vessie est en bonne santé, il peut aller aux toilettes. Pour sortir du problème, quand il met le talit la première fois, il pense « ma bracha est valable que jusqu'à ce que j'enlève le talit » ou jusqu'à ce qu'il tombe. Ou le cas où il tombe, des fois le talit, il tombe, on se rend en doute de brachot. Quand il ressort des toilettes, il refait la bracha. Et là, il pensera aussi « ma bracha est valable jusqu'à ce que j'enlève le talit » comme s'il doit, jusqu'à ce que j'enlève le talit. Si une deuxième fois il doit aller aux toilettes, de nouveau, il peut faire en une matinée 4-5 fois la bracha sur le talit. Il n'y a aucun problème parce qu'il fait cela pour sortir du doute si on doit faire la bracha oui ou non en sortant des toilettes. Ok ?
Il devra refaire les mêmes gestes qu'on fait dans le talit ?
Oui. Et tatef, il refait.
J'ai une question par rapport à la nourriture. Comment on fait quand on mange un gâteau ? On fait la mérilla. Après, on remange un gâteau, c'est 5-10 minutes après.
Bien sûr, bien sûr. Bon, on est complètement hors du sujet, là on arrive à autre chose. Mais c'est bien que tu me rappelles le mésonote. Il y a une seule bracha qu'on ne fera pas avant le repas. Je rajoute une petite chose concernant les brachas qu'on fait avant le repas. Hein. J'ai bien dit qu'on faisait bracha pri haetz, bracha pri adama, shakol sur les fruits, sur les légumes et sur le reste des aliments. Mais on ne fait pas mésonote sur du gâteau. Pourquoi? Parce qu'il y a un doute. Comment expliquer cela rapidement? Bon, je vais pas expliquer ça, oui ou non. Allez, on va rentrer un peu dans le Chabarot, on va en profiter. Dans le Talmud, il est écrit qu'on fait Borem et les Mésonotes sur pâte à Babé Kisnin. Une pâte faite en Kisnin. Kisnin. Qu'est-ce que c'est Kisnin? Bonne question. Les rabbins du Moyen-Âge se sont posé la question et il y a 3 réponses différentes à cette question. Il y en a qui disent que kisnin vient du mot kis, qui signifie poche, c'est-à-dire un pain qui est fourré. Une pâte fourrée au chocolat, fourrée au miel, fourrée aux dattes, d'accord? Un deuxième avis dit non. Kis vient du mot la kousse en hébreu, kis, ça veut dire c'est croustillant. Un biscuit, crac, d'accord? Mais pas un gâteau qui est mou. Troisième avis qui dit c'est une pâte auquel on a mélangé des choses supplémentaires, plus que la farine et l'eau, un peu de sel, on met du miel, beaucoup d'huile, d'accord, de la sauce, que ça n'a plus un goût de pain, c'est un goût de gâteau, ça n'a plus un goût de pain. Qui a raison parmi les trois avis? Les trois ont raison. On ne sait pas. Maintenant, si j'ai une pâte, qui a les trois avis réunis, le seul cas qu'on a, c'est par exemple une gaufrette. Une gaufrette, elle est croustillante, elle est fourrée, elle est douce. Donc il y a les trois à la fois. Là, c'est clair, c'est mésonote, sans aucun doute. Si je prends toutes sortes d'autres gâteaux d'habitude, il y a un doute si c'est du pain ou pas. Tu prends une tarte. Ok, elle est douce, mais elle n'est pas croustillante. Tu prends un gâteau, je sais pas, je ne connais pas les noms en français, d'accord, mais tu sortes toutes sortes de gâteaux, d'accord. Il sera doux, mais il n'est pas croustillant. Un biscuit, tu prends une matza, par exemple. Elle est croustillante, mais elle n'est pas douce. On fait mésonote sur une matza, mais c'est toujours un doute. Sur toutes sortes de gâteaux où il n'y a pas les trois conditions réunies, on fait mésonote. Mais il y a un doute, peut-être que c'est du pain. Vu qu'on ne sait pas, on fait mésonote, et c'est tout. Mais où est le problème? Si je mange un gâteau, et juste après j'ai mangé du pain, je peux qu'en faisant la barra sur le gâteau, j'ai rendu quitte le pain aussi. Je prends maintenant un biscuit. Pas dire un biscuit, je prends maintenant une tarte, d'accord? Avant le repas, je fais, bon, après mésonote, je mange un tout petit peu pour rendre quitte les gâteaux qu'il y aura en fin de repas. Non, mon cher ami, quand tu as fait maintenant mésonote sur une tarte, d'après un avis, c'est du pain cette tarte. Parce que d'après l'avis qui dit que mésonote c'est une chose qui est croustillante, la tarte n'est pas croustillante, tu as mangé du pain. On fait mésonote sur du pain, c'est valable. Quelqu'un qui fait le bracha mésonote s'est trompé sur du pain, la bracha elle est valable. Donc maintenant, tu as rendu quitte sans le vouloir, tu as rendu quitte le pain que tu vas manger dans deux minutes. Et le maître de maison fait net la tadaïm, il revient, il fait Amos la Khemina, tout le monde est content, tout le monde répond Amen, et tout le monde, et c'était une bracha le batala, une bracha en vain, et tout le monde a répondu Amen, une bracha en vain. Amen, une bracha en vain, ça s'appelle un Amen orphelin. C'est celui qui dit Amen orphelin, ses enfants seront orphelins, Dieu nous en protège, d'accord? C'est terrible, il y a une malédiction terrible. Faire attention. Maintenant, le type qui a fait maintenant Hamotzi Lechemina Aretz, il se peut qu'il a fait le Mahale Batala. Parce que, d'après l'avis qui dit que Patabakisnin, un mésonote, c'est quelque chose qui est croustillant, la tarte n'était pas croustillante, et tu as fait mésonote sur du pain. Donc, tu as rendu coup forcément le pain que tu vas manger dans deux minutes. C'est pour cela qu'avant le repas, on fera les brachot Aretz, Adama, Shakol, mais pas mésonote. Si j'ai dans le repas un mésonote, un gâteau qui a les trois conditions remplies, je fais la bracha dessus dans le repas, il n'y a aucun problème. Quand on nous amène des fois un gâteau en fin du repas, est-ce qu'on fait la bracha oui ou non? Gros problème, parce qu'il se peut que c'est du pain. C'était rendu quitte par la bracha amotsi du début du repas. Il n'y a qu'un seul cas où on fait la bracha mésonote dessus. Hein? C'est s'il y a les trois conditions réunies. Donc, c'est certainement pas du pain. L'alakha, le rabbin Sion Abashaoul et le rabbin Yosef sont d'accord là-dessus. Il n'y a pas de problème. S'il y a les trois conditions remplies, si j'ai un gâteau qui est à la fois croustillant, à la fois doux, à la fois fourré, je peux faire mesonote dans le repas à son propos.
On est sûr que c'est pas du pain.
Ok. Donc, c'était pour le talit. Tout ça revient maintenant à notre sujet principal qui est le talit. Donc, pour ressortir du problème, ou bien aussi pour les tefilines, sortir du problème, si on va faire la bracha, oui ou non, si on va enlever, pour aller aux toilettes. On pensera avant de les mettre que la bracha n'est valable que tout le temps que je les porte. Dès que je les ai enlevés, je pourrai faire la bracha. Petit détail supplémentaire, on a rappelé les fois dernières qu'il fallait rendre quitte avec la bracha du talit gadol, du talit katan qu'on porte. Si on dort avec la nuit, dans tous les cas on peut faire la bracha sur le talit katan, si on le porte juste avant, on le met juste avant de mettre dans la demi-heure avant de mettre le talit gadol, dans tous ces cas-là. On ne fera pas la bracha sur le talit katan, on fera que sur le talit gadol. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand j'enlève mon talit gadol pour aller aux toilettes? Je n'ai pas enlevé mon talit katan, il est sur moi toujours. Alors si quand je fais la bracha, je pense maintenant que la bracha est valable, que jusqu'à ce que j'enlève le talit gadol, il y a un problème, c'est qu'un beau jour j'enlève le talit gadol, à la fin de la prière je rentre à la maison, je range mon talit gadol, mon talit katan il reste sur moi. Si je pensais que la bracha elle est valable, que jusqu'à ce que j'enlève le talit gadol, alors la bracha sur le talit katan elle s'arrête aussi. Et le reste de la journée tu portes un talit katan sans bracha. Il faut penser plus compliqué, il faut penser comme ça. Ma bracha, elle est valable sur le talit katan toute la journée, et le talit gadol jusqu'à ce que je l'enlève. Et comme ça, il n'y a aucun problème. Ok ?
Il faut construire avec les...
Oui. Il faut apprendre.
Avec les variables.
Il faut apprendre la loi, et après commencer à naviguer. Ça demande beaucoup de sagesse, d'intelligence, de perspicacité et d'attention. Surtout apprendre. Il faut apprendre, sinon on ne sait rien. On fait tout à l'envers, et on croit qu'on s'en sort bien, on s'en sort pas du tout. Oui.
Si sur le tchilin, on la bracha, on l'enlève pas complètement, sans y recycler. On va refaire la bracha ou pas?
T'enlèves pas complètement, ça veut dire tu le laisses? Non, dans tous les cas, on ne fait pas la bracha. C'est clair, parce que même, à moins que tu aies pensé, comme je dis, que si tu l'enlèves. Non, ça va, ça reste. Tant qu'il est posé sur ta chair, c'est bon. Pardon ? Oui. J'ai fait un cours entier là-dessus maintenant. Le frère Wadi Yosef, on refait la bracha. D'après d'autres postes, on ne refait pas la bracha. Pour sortir du safek, quand on fera la bracha sur les tfilines, on pensera à rendre quitte les tfilines jusqu'à ce qu'on les enlève. Comme ça, quand on ressort des toilettes, on refait la bracha. Si on n'a pas pensé ça, on ne fait pas la bracha. Ok ? Bon, on va passer, on va commencer un autre sujet. Je passe mon temps de finir aujourd'hui. Le matériau du talit gadol ou talit katan. Il est en tissu, mais quel tissu? Il y a, on ne va pas faire tout dans le détail, c'est très compliqué. En deux mots, il y a plusieurs niveaux de qualité de matériau du talit. Le top du top, c'est avoir un talit qui est fait de laine. Quand je parle de laine, je parle de laine de mouton. Laine de mouton ou de bélier. Mais pas laine de chèvre, par exemple. Par exemple, le cachemire. Le cachemire, c'est une laine extrêmement douce, très bonne, mais ce n'est pas un mouton. C'est une sorte de chèvre, d'accord ? Ce n'est pas valable pour le talit. De la Torah. On est rendu qui de tous les avis de la mitzvah de la Torah de Horaïta, de porter le tzitzit, si l'habit, le talit, il est fait de laine de mouton, et que le fil qu'on met, le tzitzit, il est fait de laine de mouton aussi. Ça, c'est le top, on fait une mitzvah de la Torah, chaque seconde qu'on porte le talit katan ou le talit gadol. Chaque seconde. Nous recommandons beaucoup de le faire, parce que sans t'en rendre compte, tu portes un habit, tu ne fais même pas attention à cela. Chaque seconde tu portes, tu fais une mitzvah de la Torah, c'est parce que celui qui porte un talit katan, mekabel pnei shrina, il reçoit la face de la shrina. C'est énorme. On raconte au nom de Ganuvin, il est mort de ce monde, il s'est mis à pleurer. Mais pourquoi vous pleurez? Il dit, je quitte un monde où avec un fil, c'est quoi un fil? Ça coûte même pas 2 centimes d'euros, d'accord? Avec un fil maintenant, je fais une mitzvah où je peux recevoir la face de la shrina. C'est énorme, on ne se rend pas compte le grand cadeau que Dieu nous fait. Et des gens comme ça, allègrement, vivent sans un talit katan et passent à côté de monde de lumière éternelle. Même, c'est très dommage. Il y en a qui sont un peu paresseux. Ils ne veulent pas porter un talit qui est en laine et portent un talit de coton. C'est beaucoup moins bien. Pourquoi? D'abord, une discussion, est-ce que c'est mitzvah de la Torah qu'on fait ou des Rabbanan. D'après les Sfaradim, c'est des Rabbanan. C'est pas que c'est pas une mitzvah, c'est une mitzvah, mais tu descends de Doraïta de la Torah à des Rabbanan, c'est beaucoup moins grand. C'est beaucoup moins grand comme mitzvah. Ensuite, il y a un avis, l'avis du Bach. L'avis du Bach est du et du Baal Haïtour, un rabbin du Moyen-Âge, qui disent que la mitzvah, on fait la bracha sur un talit, que s'il est de laine, avec fil de laine. La bracha n'est pas comme eux. On fera la bracha aussi sur un talit de coton, mais savoir déjà que c'est pas génial, génial. Troisième problème qu'il y a avec le talit de coton, c'est que, il y a un avis, Marab Rotenburg, un des plus grands rabbins ashkénazes du Moyen-Âge, et beaucoup d'autres rabbins comme lui, disent qu'il faut absolument que le fil qu'on met, le tzitzit, soit du même matériau que l'habit lui-même. Donc si tu as un habit de coton, il faut y mettre un tzitzit, un fil de coton. Ok, on trouve un fil de coton, c'est pas un problème. Je vais porter un talit de coton avec un fil de coton. Il y a un gros problème. Pourquoi? Comme on va voir tout de suite ou la prochaine fois, le fil qu'on fait pour le tzitzit doit être fait pour la mitzvah de tzitzit. S'il n'est pas fait dans cette optique-là, il n'est pas valable. Je ne vais pas prendre un fil maintenant, je vais acheter ici au supermarché un fil de laine ou un fil de coton et j'en fais un tzitzit. En aucun cas, ce n'est pas valable. Le fil doit être fait, l'échem mitzvah tzitzit, pour la mitzvah de tzitzit. Sinon, ce n'est pas valable. Le coton, c'est plus compliqué. Il faut que le coton soit sorti des graines pour la mitzvah de tzitzit. Or, il est presque impossible de trouver sur le marché du coton. Il y a un avis qui dit comme ça, comme Rav Ovadia Yosef écrit comme ça, que, étant donné que d'après un certain avis, on doit avoir du coton pour le tzitzit qui a été sorti des graines, l'échelle de mitzvah tzitzit pour la mitzvah de tzitzit, c'est presque impossible d'en trouver sur le marché. Donc, on déconseille beaucoup de mettre un fil, on ne pourra presque jamais mettre un fil de coton sur un habit de coton. On mettra quoi? On mettra un fil de laine sur un habit de coton. Ok, pas de problème. Oui, il y a un petit problème. Parce que comme je l'ai dit, Maram Rothenbourg et les rabbins qui pensent comme lui disent qu'il faut que ça soit du même matériau. Donc dès qu'on n'a pas laine et laine, on descend déjà d'un cran coton et laine, c'est valable, l'alakha. Si on a un talit de coton avec un tzitzit, un fil de laine, c'est valable, on fait la mitzvah, on fera la bracha dessus. Mais savoir qu'on fait une bracha que des rabbanan et que d'après quelques avis, c'est pas bon. Donc nous recommandons beaucoup, bien qu'en été il fait chaud avec, c'est pas terrible, on portera un habit de laine, un coton, un talit de laine, auquel on mettra un fil de laine. Les habits de nylon, c'est un gros problème, parce que d'après beaucoup d'avis, ils ne sont même pas appelés un habit. Parce qu'un habit doit être du tissu. Est-ce que le nylon appelle ça un tissu, oui ou non? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Donc sur un talit de laine, de nylon, on ne fera pas la bracha. Et il y a un grand doute si on fait la mitzvah berlal.
C'est quoi le nylon?
Le nylon, du nylon. Tu as des habits de nylon, c'est-à-dire tu as des fois des talits de nylon. Je ne sais pas si tu as vu des fois des talits qui sont comme un tri, comme ça, très très léger. Ils sont faits de nylon comme ça. Et ça me l'air du coton. Ils sont en tri, comme ça, avec des trous partout, d'accord. Un temps, c'est très...
Des bardeurs, genre.
C'est pas forcément des bardeurs. Tous les talits sont des bardeurs. Tous les talits, ils sont comme ça.
Ils sont
encadrés, voilà, en tri, comme ça.
On m'a dit que c'est pas top, ça.
C'est ce que je suis en train de dire. Si c'est fait de nylon, on ne fait pas la bracha et il y a un grand doute si on fait la mitzvah. Donc il faut vraiment s'éloigner de ça, pas porter d'habit de nylon. En plus, ça fait transpirer, c'est pas naturel, c'est synthétique, etc. Oui.
Pour le mouton que l'on utilise, parce qu'il faut utiliser pour la laine, pour le coton, pour que ça soit sorti des graines.
Oui. D'après un certain avis, oui.
Le mouton, il faut que ça soit rasé pour la.
Non, juste le fil. On peut raser le mouton. Sans qu'on pense que ça fait pour la mitzvah, il faut faire le fil. Quand on fait le fil, il faut le faire pour la mitzvah. Là, je arrive à un autre point très important, et peut-être on a le temps d'en parler un tout petit peu. Il y a un gros problème avec les fils qui sont faits à la machine. Parce que, il y a une discussion très grande chez les poskim, les décisionnaires encore actuels. Comme je dis, il est obligatoire que le fil soit fait l'échem mitzvah, pour que le fil soit fait l'échem mitzvah tzitzit. Il faut que le fil soit fait pour la mitzvah de tzitzit. Maintenant, les fils qui sont faits à la machine électrique. Est-ce qu'on considère que quelqu'un qui appuie sur le bouton de la machine et dit les chaînes satisites, comme ça ils font, les chaînes satisites, il appuie. Est-ce qu'on va dire que c'est le fil, il est fait, les chaînes satisites, ou non? On va dire que ce n'est pas lui qui fait. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appuyé sur le bouton et la machine, elle fait tout seul. C'est un peu plus profond, comme ça. L'Arabie Sanaba Shaoul et d'autres Rabbanim, ils disent. Que tout ce qui est fait électriquement ne peut pas être considéré comme le shem mitzvah, qu'on le fait pour une mitzvah. Pourquoi? C'est quoi le courant électrique? Il donne un exemple, c'est comme si j'ai maintenant une rivière, il y a un courant. Je mets un barrage, j'arrête le courant. Maintenant, quand je veux qu'il y ait de nouveau du courant, j'enlève le barrage et l'eau elle coule. On ne peut pas dire que c'est moi qui ai fait couler l'eau. Le premier jet, oui, mais le reste après, ça coule tout seul. C'est un courant. Le courant électrique, s'il est alternatif, si c'est un courant. Il y a continu et alternatif. Dans le secteur, l'EDF, en Israël, c'est alternatif. Dans tous les pays, c'est alternatif. Une batterie, c'est continu. Alors, si j'ai une machine qui fonctionne, l'électricité continue, il n'y a aucun problème. C'est moi qui fais. Mais quand c'est alternatif, ça vient, ça part. C'est comme ça. Ça passe, le plus devient moins, le moins devient plus. Donc, ce n'est pas toi qui agis. C'est le courant tout seul. Donc, ne pas dire maintenant, je fais la mitzvah maintenant, l'échem mitzvah. Tu ne fais rien du tout. Le premier jet d'électricité, la première, peut-être étincelle, c'est toi qui l'as faite. Mais tout le reste, c'est le courant qui est venu tout seul. Donc, quelqu'un qui fait une chose à la machine qu'on doit faire les chemises pour la mitzvah, ce n'est pas valable. Par exemple, on aura beaucoup d'implications à cela. Les matzot pour le soir de Pessah. Le soir de Pessah, il faut manger kazaït matzah. Elle doit faire les chem matzah mitzvah. On doit la faire pour la mitzvah de matzah. Si on ne fait pas ainsi, ça ne marche pas. Comment ils font dans les usines où on a les matzot carrés qui sont faits à la machine? Le type, il appuie sur le bouton et dit le shem matzat mitzvah, tac. Après la machine, elle fonctionne tout seul. Est-ce que c'est valable, oui ou non? Le Rabbi Sion, beaucoup d'autres poskim disent non, c'est pas valable. Rabbi Yosef, il dit c'est valable. Discussion. Est-ce qu'une action électrique ou courant alternatif est considérée comme mon action ou pas? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Il y a beaucoup d'autres encore implications à cela. On ne va pas trop en parler maintenant. On revient maintenant pour nos fils de tzitzit. Celui qui fait la mitzvah comme il faut bien, il faut absolument qu'il achète des fils de tzitzit faits à la main. coûte un peu plus cher, mais sans ça, il y a de fortes chances que la mitzvah n'est pas faite. Quand on achète un talit qui a déjà des fils, dans 99% des cas, ce talit n'est pas valable parce que le fil est fait à la machine. C'est pas valable, comme je l'ai dit, d'après beaucoup d'avis. Donc, quand on achète un talit qui a déjà des fils, on enlève les fils, et on remet des fils qu'on a achetés qui sont faits à la main, et on les met soi-même, on demande à quelqu'un qui s'y connaît bien de les mettre. Ça se reconnaît très très vite. Ils sont faits avec une machine qui est faite à la main, c'est-à-dire, ou avec des pédales, d'accord, ils pédalent. C'est pas qu'il fait à la main, il le tourne comme ça, d'accord, mais c'est fait à la force humaine, c'est pas fait électriquement. Ou avec un courant continu, que là, tout le monde est d'accord que ça va. Pardon ? Les tiens ? Je vais le montrer après et on va vérifier. Bahou Khadon, là, comme on va.